s'intitule « La cure d'âme ». Nous allons donc parler toute cette semaine, jusqu'à la fin, jusqu'au vendredi 11, nous allons parler de cela, la cure d'âme. Pour un sujet à un si grand développement, il fallait un plan. Il comprend deux feuilles et quatre pages. Bien entendu, vous le prendrez comme un plan et non pas comme un résumé ou comme peut-être même un traité, n'est-ce pas? Il s'agira d'un plan qui vous permettra de mieux suivre les différentes réunions que nous aurons ensemble, donc les différentes études, car j'espère que vous reviendrez aux autres, vous qui êtes là ce soir, n'est-ce pas? Alors, nous pourrons ensemble mieux nous comprendre, suivre le développement de ce sujet. Dans la page 3 et dans la page 4, il y a la thérapeutique spirituelle, c'est-à-dire les moyens de guérison, moyens de rétablissement. Alors, ces moyens, c'est cela surtout que nous allons étudier. J'ai classé ces moyens en sept divisions, sept points. Les voici. Le premier, c'est un retour à l'expérience de base du salut. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Un retour à l'expérience de base du salut. Car quand il y a une maladie, lorsque la vie chrétienne n'est pas dans son euphorie, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans véritablement sa joie, eh bien, c'est que l'on s'est éloigné de l'expérience de base du salut. Ce n'est pas tout que de devenir chrétien. Il faut le rester, n'est-ce pas? Il faut le rester. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Deuxième thérapeutique, deuxième groupe de thérapeutique, de traitement, rétablir la foi. Nous en parlerons. Troisièmement, reprendre la marche. Car la plupart du temps, lorsque la vie chrétienne est déficiente, la marche est stoppée. On ne marche plus, on est arrêté, et on parle même souvent de rétrograde, c'est-à-dire de gens qui vont en arrière. Quatrièmement, lutter et supporter. Supporter les épreuves, les tentations, l'Écriture nous en parle, n'est-ce pas? Et il faut le faire, ça. Lutter et supporter. Cinquièmement, être rempli du Saint-Esprit. Sixièmement, croître, c'est-à-dire évoluer dans le bon sens, grandir. Alors là, il y a des indications, évidemment. Dans l'Écriture, nous trouvons différentes expressions qui toutes concourent à nous présenter cette nécessité de la croissance. Les chrétiens, dans le début de leur expérience, sont des bébés, des petits-enfants, qui doivent croître, grandir. Ils ont besoin d'une nourriture, d'un lait, n'est-ce pas, comme nourriture. Mais il faut qu'ils deviennent des hommes faits. Il faut qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. Alors, le perfectionnement des saints, la marche de progrès en progrès, la transformation en la même image, de gloire en gloire, que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, tout cela, c'est la croissance. Et septièmement, la dernière division qui est la plus importante, c'est celle qui, en somme, apporte à ces différentes thérapeutiques leur point d'orgue, leur point final, leur couronnement, rechercher l'amour. Et puis, il y a une conclusion. Alors, ce soir, nous allons donc étudier dans la page 3, le premier point, retour à l'expérience du salut. Eh bien maintenant, laissons ce papier et nous allons en venir à notre étude. Je voudrais tout de même vous donner quelques avertissements. Il y a certes parmi vous des personnes qui peuvent très bien ne pas se voir malades et qui peuvent ne pas être malade spirituellement, ne pas porter de déficience, de maladie de l'âme, naturellement. Moi, je ne veux pas que vous soyez malade, je voudrais bien que nous soyons tous très bien portants spirituellement, bien sûr. Alors, que ce que nous allons faire ne vous conduise pas à faire de vous des malades imaginaires. Ben, il ne s'agit pas de cela. Si l'on n'est pas malade, eh bien, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Si l'on est malade, eh bien, il faudra voir dans quelle mesure on l'est, il faudra s'examiner comme nous allons le voir. Mais même si l'on est bien portant, les méditations que nous allons faire sur cette thérapeutique spirituelle ne pourra être qu'utile, car elle permettra de puiser dans la parole de Dieu des forces nouvelles, elle permettra de trouver dans la parole une jouvence qui va nous maintenir dans le plein élan, la pleine expression de la vie abondante, de la vie nouvelle. Et puis enfin, un avertissement qu'il faut que je donne, ne confondons pas la cure d'âme avec les méthodes employées actuellement, telles que la psychothérapie, par exemple, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les méthodes employées par les psychanalystes ou les psychiatres, rien de commun, bien sûr, avec cela. Je ne parle pas de ces choses-là, mais je pourrais, si j'en parlais, en dire des choses qui seraient un petit peu désavantageuses pour les méthodes humaines. Nous, il s'agit de l'action de l'Esprit de Dieu à laquelle nous allons, si nous le voulons bien, si nous avons la foi pour cela, nous allons nous offrir de façon à ce que nous soyons puissants. Dieu, ton Dieu veut que tu sois puissant, est-il écrit. Ton Dieu veut que tu sois puissant, que tu sois par conséquent en bonne santé spirituelle, dans toute la force qu'il entend maintenir en toi. Nous allons donc en venir au premier point, le retour à l'expérience de base du salut. Et rapidement, nous relirons les textes que j'ai cités, Matthieu 16, verset 24. Il y a là un enseignement du Seigneur qui est un enseignement de base. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera ou la retrouvera. » Et même Jean dit « la retrouvera en vie éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dans l'Apocalypse, il y a même ceci, « À chacun de vous, il rendra à chacun de vous selon ses œuvres. » Nous lirons ensuite dans Romains 13, Romains chapitre 13, verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Avant de lire nos deux autres textes, je veux m'arrêter juste un petit instant ici pour faire une petite observation. À lire ceci, il semblerait que l'Église des Romains, l'Église de Rome, à la connaissance de l'apôtre Paul, était une Église assez malheureuse. Il faut lui dire, comment dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Ils n'en sont donc pas là, ces gens, ces chrétiens-là. Mais où sont-ils? Et il faut leur dire, n'est-ce pas, de se dépouiller des œuvres du ténèbre et de revêtir le Seigneur Jésus. Mais c'est précisément là, l'expérience de base du salut. C'est l'expérience de base. Quand on se convertit, quand on vient au Seigneur, c'est ce qu'on fait. On se dépouille, nous allons le redire, n'est-ce pas? Se dépouille du vieil homme. Et on revêt l'homme nouveau. C'est ainsi que vous avez appris Christ, que vous devez avoir appris Christ. Alors, on pourrait se dire, mais l'Église des Romains, c'est une Église tombée, ça. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas du tout. Voulez-vous regarder le chapitre 1er et le verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dans le monde entier. Enfin, le monde connu d'alors, n'est-ce pas? Bien sûr, mais enfin, c'était déjà beaucoup. Alors, voyez que la foi des Romains est grande, puisque l'apôtre commence par rendre grâce à Dieu de ce qu'il parle à une église dont la foi est grande et renommée. Et à cette église-là, il faut lui redire cependant, réveille-toi, dépouille-toi et revêt. Dépouille-toi et revêt. Vous voyez par conséquent, n'est-ce pas, que ce message n'est absolument pas réservé à des gens qui sont tombés, mais, je le dis, n'est-ce pas, à des chrétiens qui ont besoin de veiller et qui ont besoin constamment de revenir à l'expérience de base du salut. Parce que s'il n'y a pas la base du salut, il n'y a rien. S'il n'y a pas le fondement, on ne peut pas construire dessus, si le fondement n'est pas bon. Ensuite, nous lisons encore dans Éphésiens, chapitre 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Que produit la vérité. Insistons tout de suite là-dessus, chers amis, sans la vérité, personne ne peut être sauvé. Personne, sachez-le. Attention, pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de l'illusion. L'illusion que l'on peut se faire à soi-même. Se tromper soi-même, comme dit Jacques. L'illusion. Attention, sans la vérité, même si la vérité est appelée à m'effrayer un certain moment sur moi-même, sans la vérité, il est impossible d'être sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il faut passer par ce chemin, y trouver la vérité et la vie. Sans la vérité, chers amis, c'est impossible. Et la vérité, ce n'est pas seulement l'énoncé d'une doctrine, ce n'est pas seulement de connaître comme il convient, avec des vues bien placées, la doctrine chrétienne, la saine doctrine de Christ même. La vérité, c'est de la vivre, cette doctrine. C'est de la vivre, c'est de la mettre en pratique. C'est ça la vérité. La vérité demande cela. Enfin, nous allons lire Colossiens 2:11 pour montrer simplement l'insistance de l'apôtre Paul sur cette question du dépouillement. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Donc ici encore, n'est-ce pas, le rappel de cette expérience qui est désignée sous le terme de circoncision. Il n'y a pas besoin de reproduire le signe donné à Abraham, la circoncision dans la chair, c'était pour un temps, ce signe n'a pas à être reproduit, mais ce signe lui-même était annonciateur de quelque chose que Dieu désirait, la circoncision des cœurs. Ainsi, à l'origine de l'expérience chrétienne, ou si vous voulez, de l'entrée dans la vie. Un chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui vit d'une vie impérissable, d'une vie impérissable. La vie éternelle, c'est pour maintenant, c'est maintenant qu'il faut la vivre. Celui qui la vivra maintenant, eh bien, y entrera définitivement, au moment où le Seigneur, n'est-ce pas, le prendra, ou au moment de l'enlèvement de l'Église, mais c'est maintenant qu'il faut vivre cette vie nouvelle, qui est une vie impérissable. À l'origine de cette vie, il y a donc un renoncement à soi-même. En somme, ce renoncement à soi-même, c'est aussi ce que le Seigneur appelle perdre sa vie à cause de lui. À cause de lui, lui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ou la retrouvera. C'est perdre sa vie, ça c'est le renoncement. Il y a ensuite, nous dit l'apôtre Paul dans ses épîtres, le dépouillement du vieil homme ou le dépouillement du corps de la chair, c'est une autre expression qui est équivalente, puis un renouvellement dans l'esprit de l'intelligence, un renouvellement. Et enfin, un revêtement de l'homme nouveau. Revêtement de l'homme nouveau, ce revêtement étant appelé aussi revêtement du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans Romains 13. Alors, tout d'abord, expliquons un peu cela. C'est l'expérience du début, cela, chers amis. C'est l'expérience du début. Quand nous évangélisons, ou quand nous témoignons à l'égard des personnes du dehors, nous n'allons pas, bien sûr, tout de suite leur expliquer toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais elles vont s'accomplir, ces choses. Si la conversion est réelle, si c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, alors il va y avoir, n'est-ce pas, ce passage par la repentance. L'homme qui se convertit va se découvrir pécheur devant Dieu. Il va être horrifié de son état, horrifié. Je me rappelle une dame que j'aime beaucoup, je connais bien une dame est déjà âgée qui s'est convertie à un âge avancé dans le cours de cette action du Saint-Esprit en elle, lui montrant son état. Oh, monsieur, comme je suis laide, comme je suis vilaine. Et je vous assure, c'était une dame raffinée. Dans la société humaine, n'est-ce pas, nous assure que c'était une dame vraiment, n'est-ce pas, qui pouvait attirer à elle beaucoup de considération. Elle me disait cela, et elle en était véritablement convaincue. Je l'ai laissée pendant 48 heures dans cette situation, chers amis. Je me suis dit que le Saint-Esprit fasse son œuvre entièrement. Et puis après, je lui ai dit, c'est vrai, mais attention. Le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, vous pardonne vos péchés. Il efface cela. Il enlève ce péché. Et vous ne l'avez plus. Vous en êtes délivré entièrement. N'est-ce pas? Voyez, alors ça, c'est le dépouillement. Il y a avec cela, n'est-ce pas, le désir de sortir de cette vaine manière de vivre. Certains auteurs disent de renonçant à votre existence passée. Renonçant, un autre traducteur dit, vous dépouillez quant à votre conduite précédente. Dépouillez de la vie du vieil homme. Ce vieil homme, il ne sait vivre que comme ça. ne peut pas vivre autrement, ce vieil homme. L'ancien moi, n'est-ce pas, la nature que nous avions en nous, elle ne peut pas vivre autrement. Elle ne peut goûter que la vie qui se perd, que la vie corrompue. Elle ne peut goûter que cela. Alors, c'est l'expérience de base, cela. Le renoncement à soi, c'est l'équivalent du dépouillement. Le Seigneur Jésus en a parlé comme d'un renoncement, comme d'une perte de vie, de sa vie, et l'apôtre Paul sous le terme de dépouillement, mais tout cela revient au même, n'est-ce pas? C'est cette expérience nécessaire, indispensable, du début de l'expérience chrétienne. Christ, si, comme le dit Paul dans les Éphésiens, a été bien appris, c'est-à-dire si on a vraiment bien compris l'appel du Seigneur Jésus, si on a bien compris sa parole, si on a bien écouté, bien sûr, bien appris, bien écouté, eh bien le Christ, lui, est la source d'une vie différente, toute nouvelle. Il est la source et il en est le modèle. La source et le modèle d'une vie nouvelle. Quant au vieil homme, l'ancien moi, celui dont il faut se débarrasser, se dépouiller, celui qu'il faut crucifier, eh bien lui, alors, il est toujours appâté par les convoitises. Les convoitises trompeuses ou les convoitises de la séduction. Et ces convoitises ne sont pas seulement extérieures, mais pas seulement ce qu'on voit dans le monde, l'envie que l'on a de belles choses, l'envie que l'on a de participer au plaisir, l'envie que l'on a de paraître, etc. Oui, il y a des convoitises tout autour de tout homme, bien sûr. Mais ce ne sont pas seulement celles-là. Il y a des convoitises intérieures. Attention, c'est celles-là qui seront dures, difficiles à détruire, plus difficile, parce que le vieil homme, nous le portons en nous, et ce vieil homme, c'est un traître, lui ne se convertira jamais, il faut se dépouiller de lui, on peut l'assimiler, si vous voulez, à la chair et au sang qui n'hériteront point le royaume de Dieu. L'homme naturel qui est en nous, le vieil homme, n'est-ce pas, cette vieille manière de vivre que nous étions, n'est-ce pas, attention, c'est un homme qui a commis le péché contre le Saint-Esprit. Un péché qui mène à la mort. Lui, n'est-ce pas, il n'y a rien à faire pour lui. Il faut que, dans notre individualité que Dieu reprend, se lève un homme nouveau, apparaisse un homme nouveau. C'est ça la conversion. Enfin, ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas un amendement, l'entrée dans la vie de chrétienne, dans la vie nouvelle. Ce n'est pas un amendement, c'est une mort pour le vieil homme. C'est une mort suivie d'une résurrection. Et tout cela se passe dans l'être intérieur, en nous. Le support reste le même, mais le support cher, lui, n'héritera pas le royaume de Dieu. Alors, ces convoitises et convoitises extérieures et intérieures entretiennent la corruption. Alors voilà, chers amis, une difficulté. Si le vieil homme n'est pas véritablement rejeté, s'il n'est pas crucifié et maintenu crucifié, alors il va lui revenir à la corruption, il ne sait pas faire autre chose. La chair, nous dit l'apôtre Paul dans les Galates, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne le peut pas. Il y a même entre la chair et l'esprit une opposition irréductible afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Cette opposition, Dieu la maintient afin que l'on passe véritablement de la chair à l'esprit. Du corps de chair au corps spirituel. Alors, les convoitises entretiennent la corruption, car elles trompent ces convoitises dans toutes leurs promesses. Elles mettent l'homme en désaccord constant avec Dieu. Chaque fois, chers amis, que dans la vie chrétienne, nous laissons
œuvrer en nous encore les convoitises, que ce soit celle de l'intérieur ou celle de l'extérieur, eh bien, sachez que ces convoitises, si nous les laissons agir, elles nous séparent à nouveau de Dieu. Elles nous séparent de Dieu, chers amis. Elles nous séparent. Elles sont en désaccord avec Dieu. Elles font de l'homme, de sa nature entière, un mensonge vivant. Un mensonge vivant. L'homme le plus respectable, chers amis, qui ne veut pas de Christ, qui veut rester ce qu'il est, est un mensonge vivant. Ah, ça ne paraît pas toujours, mais c'est comme ça. L'homme nouveau, lui, qu'il s'agit de revêtir, alors c'est le Christ lui-même. L'homme nouveau, ne croyons pas que l'homme nouveau va se former en nous indépendamment de Christ. Pas du tout, c'est Christ. Christ qui vit en moi, qui doit vivre en moi, c'est Christ. D'ailleurs, l'homme nouveau est toujours, il en est toujours parlé au singulier, jamais au pluriel. L'homme nouveau, c'est Christ qui doit se reproduire en nous. Et c'est Christ lui-même ressuscité, Christ ressuscité, qui apporte aux croyants un renouvellement de son esprit, avec un petit t, renouvellement de son esprit. Et comment cela? Par le fait d'une création. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour des œuvres tout à fait différentes de celles qui étaient les vôtres avant. Vous avez été créés en Jésus-Christ par le fait d'une création à l'image de Dieu. Une création à l'image de Dieu. C'est ça la conversion. Et je voulais vous relire dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, notons bien cette expression de l'Écriture, en Christ, en lui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà l'expérience de base du salut. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les caractères dominants de cet homme nouveau, de cette image, c'est la justice et la sainteté que produit la vérité, nous dit l'apôtre Paul dans les Éphésiens. Justice et sainteté. Eh bien, au cours de la vie chrétienne, deux questions peuvent se poser. S'il y a déficience dans la vie chrétienne, s'il y a un affaiblissement. Deux questions peuvent se poser. La première est celle-ci. Que doit se poser un chrétien s'il est désireux véritablement d'être sauvé, n'est-ce pas? Eh bien, il doit se poser soit l'une ou l'autre de ces deux questions. Ai-je vraiment renoncé, comme Jésus le demande, ai-je vraiment renoncé à mon ancien moi, à la nature que je portais, à la vie que je menais? Est-ce que j'ai vraiment renoncé à mon ancien moi? M'en suis-je dépouillé de ce moi? Y ai-je appliqué ma foi? Car la foi, à quoi voulez-vous que ça serve? À faire des miracles? Le Seigneur Jésus vous dira non. Appliquez votre foi à devenir mon disciple et à être mon disciple. Appliquez votre foi à cela. Les miracles, ils interviendront quand il le faudra. Mais d'abord, cela, n'est-ce pas? Soyez mes disciples. Donc, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que vraiment, quand je suis venu à la foi chrétienne, j'ai bien renoncé à moi? Est-ce que je l'ai vraiment fait? Est-ce que j'y ai appliqué toute ma foi? Si l'on se répond non, après avoir lu et relu l'Écriture, alors il faudra bien vite y venir, bien vite le faire, cela. Et la seconde question que l'on peut se poser est celle-ci.
si vraiment j'ai renoncé à moi, oui, mon expérience a bien comporté cela, c'est vrai, je m'en souviens, je peux en attester, bon, eh bien, est-ce que je suis, après, mettons, plusieurs années de vie chrétienne, est-ce que je suis resté dans ce renoncement? Est-ce que j'y suis resté? M'y suis-je maintenu? Ne me suis-je pas laissé reprendre par la puissance de la chair? N'ai-je pas écouté certaines sirènes qui me disaient « Oh, faut pas être excessif, oh, aujourd'hui, dans les temps modernes, tout de même, ces choses-là, telles choses, mais ça peut aller, c'est permis, ça, c'est pas péché, etc. » N'est-ce pas? Alors là, j'aurais abandonné la position de renoncement, le port de la croix, j'aurais abandonné cela. Et si mon âme est malade, je n'aurais pas à m'en étonner, la cause en serait là. Il faut donc faire le point. Il est indispensable de faire le point. C'est ce que l'apôtre Paul appelle s'examiner, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Dans 2 Corinthiens 13, 5, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes capables de croire que le Seigneur sauve, que le Seigneur guérit encore aujourd'hui, est capable de dire Alléluia dans une réunion. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Savoir si nous sommes dans la foi, si nous usons de notre foi conformément dans les lignes de l'Écriture. Conformément à ce que le Seigneur attend de nous, conformément à ses consignes, à son instruction, avons-nous renoncé? Sommes-nous vraiment de ceux qui sont heureux de porter chaque jour notre croix, de suivre le Seigneur? C'est à tout cela qu'il faut appliquer sa foi. Elle sert à cela, la foi. Avant toute chose, elle ne sert pas seulement quand on a un besoin, besoin d'un secours, on est malade, on a un coup dur quelque part, n'est-ce pas? Et alors, ah oh, ben là, on a la foi, on va demander au Seigneur qu'il intervienne. Mais c'est tout le temps qu'il faut user de la foi, il faut en user pour sa vie, n'est-ce pas? Alors, il faut faire le point, et faire le point, c'est-à-dire s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi. Par exemple, se poser des questions comme celle-ci. Est-ce que je suis fervent d'esprit tous les jours? Qu'est-ce qui m'appâte? Qu'est-ce qui m'intéresse? M'intéresse à beaucoup de choses, de la vie, de l'existence, puis un petit peu de temps en temps, moment de la prière, moment des réunions, un petit peu au Seigneur. Mais la plupart du temps, je suis intéressé par toutes sortes d'autres choses. Alors, suis-je fervent d'esprit? Suis-je ferme dans mes voies? Suis-je en paix? Est-ce que j'ai la paix dont a parlé le Seigneur? Est-ce que j'ai en moi cette joie de Christ qui est la joie parfaite de Christ? La joie parfaite, est-ce que j'ai cette joie en moi? Il ne s'agit pas de savoir si je suis drôle, si j'aime rire, si je me réjouis quand on est entre quelques amis comme ça. Ce n'est pas ça. La joie intérieure, la joie de Christ, est-ce que je l'ai? Est-ce que je suis miséricordieux et porté à la miséricorde? Ou si je suis indifférent vis-à-vis des autres? Ah, il lui arrive ça, oh, le pauvre. Bon, voilà, n'est-ce pas? Ah, c'est malheureux, oh, c'est malheureux ce qui lui arrive là, oui, bon. Mais est-ce que je suis miséricordieux? Si je vois quelqu'un en difficulté, et en difficulté dans sa vie chrétienne, dans son âme, dans sa vie morale, autant que dans sa vie physique, est-ce que je suis là, prêt à intervenir avec la parole de Dieu, avec l'amour? Suis-je miséricordieux? Suis-je sage? Ai-je la pureté du cœur? Un cœur pur, heureux ceux qui ont un cœur pur car ils verront Dieu. Est-ce que j'ai cette pureté de cœur? Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu? Mais vous savez, on peut s'en poser des questions comme ça. Il n'y a qu'à lire l'Écriture. Est-ce que j'ai ça ce que dit l'Écriture? Est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? C'est ça, s'examiner soi-même pour savoir si l'on est dans la foi, chers amis. Il faut le faire. C'est une cure, cela. C'est une excellente cure. Voilà où nous allons trouver le diagnostic, ou plutôt le grand docteur. J'ai mis dans notre papier, là, qu'il n'y avait qu'un docteur. Dans vous savez, la cure d'âme, il n'y a pas des docteurs partout, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un, un grand docteur, n'est-ce pas? Vous voyez, il est là-haut. Mais, nous pouvons, bien sûr, n'est-ce pas, user des thérapeutiques qu'il nous a d'avance données et qu'il, même, qu'il nous destinera, en particulier si nous savons l'écouter, si nous savons dresser l'oreille pour écouter sa voix. Ainsi donc, il faudra s'examiner avec honnêteté, avec droiture, et pour s'examiner, il importera de revenir à la parole. Si nous avons un peu perdu l'habitude de lire la Bible, eh bien, il faudra y revenir tout de suite. La première des choses à faire, revenir à la parole, prier, même si on n'a pas beaucoup d'aisance dans la prière, prier très simplement, « Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin de savoir, toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde mon cœur, montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur. Et Seigneur, ce que je lis là, est-ce que je l'ai, moi? Est-ce que je suis comme cela ?» Ainsi, n'est-ce pas, prier, revenir à la parole, et le Saint-Esprit nous révélera notre état, bien entendu. Alors, le dépouillement étant ainsi réalisé, où nous serons revenus au dépouillement qui est l'expérience de base du salut, alors, nous allons nous replacer dans la voie du salut. Nous allons vraiment avoir là, à nouveau, les pieds sur le vrai chemin pour suivre Jésus. Et on ne peut pas le suivre sans ce renoncement, sans ce dépouillement. Et ce dépouillement doit se faire en vue d'un revêtement. Mais parlons encore un petit peu d'une façon pratique de ce dépouillement, renoncement à soi-même et dépouillement. Et je vais m'emparer d'une comparaison bretonne. Comparaison bretonne. Vous êtes ici, à Brest particulièrement, entouré de la mer, l'océan, la Manche d'un côté, puis l'océan de l'autre, et vous avez avec les découpures de vos côtes une présence, une irrigation, je dirais, de la mer qui est véritablement magnifique. Alors, vous voyez le rivage de la mer souvent. Vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, c'est pas plus que moi, certainement. Eh bien, ce qui est caractéristique dans votre région, c'est la découverte du rivage, n'est-ce pas, lorsque la mer est à marée basse. À marée basse, l'eau s'en va, loin quelquefois, parce que la pente est très douce, n'est-ce pas. Alors l'eau, ça s'en va très loin là-bas. Et puis alors, qu'est-ce qu'on voit? Se découvrir un rivage que l'on ne voyait pas à marée haute. Plutôt, c'était la marée haute, on voyait l'eau clapoter, là, tout au bord, n'est-ce pas, presque à ses pieds. Et puis alors, la marée basse est venue, et alors ça a découvert toute une place, disons, si vous voulez, une topographie, n'est-ce pas, qui était cachée par l'eau. Et alors, que voit-on là? Des petits rochers, souvent, n'est-ce pas, et entre eux, dans les creux de ces rochers, de la vase. J'avoue que ça me plaît pas beaucoup, je préfère la marée haute, moi. N'est-ce pas? J'aime pas trop voir ces rivages découverts, n'est-ce pas, sur d'assez grandes distances, avec cette vase qu'il y a là. Eh bien, chers amis, nous dépouiller maintenant, si nous en avons vraiment le besoin au cours de notre vie chrétienne, eh bien, ce sera un petit peu connaître la marée basse. Jusque-là, bien des choses pouvaient cacher l'état réel de notre âme. Notre état spirituel, la topographie, si vous voulez, de notre état spirituel pouvait être couverte par bien des choses. Peut-être des illusions, une manière de considérer les choses, une certaine insouciance peut-être, n'est-ce pas? Et puis on est entraîné dans le mouvement de la vie chrétienne, on vient aux réunions, etc. On pense pas trop à son expérience. Alors, la topographie de l'âme, c'est-à-dire ce qu'il y a au fond, dans le fond de notre cœur, n'est-ce pas, dans le fond de notre cœur, on ne le voit pas. Mais si nous acceptons le dépouillement, on va en somme faire une marée basse et voir apparaître toutes sortes de choses. Sortes de choses qui ne sont pas si belles. Toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qui étaient cachées, mais qui, pourtant, doivent être vues. Et cette marée basse, et si vous voulez, ce dépouillement dont nous parlons, ce dépouillement, cette marée basse qui fera apparaître nos misères, les petits rochers, cette vase, peut-être bien même, que sais-je, une vase assez noire, si jamais il y a eu un Torrey Canyon dans le temps par là, n'est-ce pas? Voyez-vous, un Torrey Canyon du péché, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, n'est-ce pas, qui est amené là, du mazout, un dépôt noirâtre. Alors l'eau, la marée haute peut cacher ça, mais la marée basse découvre cela, et fera apparaître nos misères, nos impuissances. Nos impuissances dans la vie chrétienne. Mais avez-vous songé à ça? Je rappelais au début, ton Dieu veut que tu sois puissant. Est-ce que nous le sommes? De notre sein doit sortir une puissance des eaux vives. Une houille blanche qui devrait sortir de notre sein, comme a dit le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons cette puissance? Nos impuissances à obtenir quoi que ce soit dans la prière? Nos impuissances sur nous-mêmes, chers amis. Alors ce sont des choses qu'il faut découvrir, cela, et par un dépouillement nous le pourrons. Notre pauvre foi sera peut-être découverte à ce moment-là. Notre pauvre foi, notre foi qui est devenue paresseuse, qui ne s'est appliquée à rien, qui n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, qui n'a pas veillé. Notre pauvre foi, alors la marée basse, le dépouillement, va découvrir tout ce paysage nouveau. En somme, le dépouillement va nous permettre de nous voir tel que Dieu nous voit. Voyez-vous, c'est un dépouillement avec le Saint-Esprit, c'est pas artificiel, c'est pas charnel, naturellement. C'est un dépouillement avec le Saint-Esprit par la prière, dans l'humilité, dans l'humiliation, tel que Dieu nous voit. Et la vérité va se faire jour. La vérité, c'est de voir ce qui est vilain, ce qui est caché, ce qui est dissimulé par l'eau miroitante des apparences. Tout ce qui est caché, n'est-ce pas? Ça, c'est la vérité que de le mettre à jour. Et cette vérité va faire son œuvre. Elle va faire son œuvre. L'Écriture nous dit ceci dans Éphésiens 5, 13, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Voyez-vous, Dieu voit les choses qui se font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est peut-être assez complexe, ça. On n'est peut-être pas très sûr du sens que ces paroles portent. Eh bien, le voici ce sens. Tout ce qui est repris, c'est-à-dire tout ce qui donne lieu à une conviction de péché, repris parce que nous l'aurons vu, le dépouillement nous aura fait découvrir la topographie réelle de notre état spirituel. L'eau s'est éloignée, nous avons vu ces choses. Alors, qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons dire, mais ça, ce n'est pas bon, ça, c'est le péché. C'est le péché, cela. Oh, vous savez, le péché, attention, chez un chrétien, le péché a des formes excessivement subtiles, très subtiles. Alors, tout ce que nous allons déclarer être le péché, dénoncer en nous comme étant le péché et apporter à Dieu, c'est ce que j'appelle tout ce qui est repris, tout ce qui est conviction de péché, tout ce qui est manifesté au grand jour de la vérité. Tout cela, nous dit Paul, devient lumière, car tout péché révélé par l'Esprit de Dieu en nous, tout péché reconnu par foi et par dans l'humiliation, tout péché confessé amène une libération. Le péché, lorsqu'il est confessé, Il est volatilisé par la lumière. C'est fini. C'est fini. Ah, voilà une cure. N'est-ce pas? Une belle cure. Et que le Seigneur opère lui-même. Il arrive que la vie chrétienne, chers amis, je n'exagère pas, la vie chrétienne soit un peu un sépulcre blanchi. Vous savez ce qu'a dit le Seigneur de sépulcre blanchi dans Matthieu 23, 27. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, chers amis. Alors, n'allons pas lire ça en disant, mais ça intéressait des hommes, s'appelaient les scribes et les pharisiens, c'est de l'histoire. Non, non, c'est d'aujourd'hui ça, chers amis, d'aujourd'hui. Et chers amis, si nous ne nous examinons pas nous-mêmes, si nous ne faisons pas la marée basse pour découvrir vraiment quel est notre fond, et pour le montrer à Dieu, le manifester à la lumière, à la vérité, le dénoncer, en être délivré, eh bien, chers amis, notre vie chrétienne sera hypocrite. Elle sera hypocrite. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, pour vous ennuyer, chers amis, au contraire. Bah, nous sommes là pour nous faire du bien. Bah, mais pas pour être complaisant à l'égard de chacun de nous, parce que, chers amis, je le vous le redis, en nous, il y a un traître. Et ce traître, c'est ce vieil homme qui est toujours prêt, n'est-ce pas, à ramener ce qu'il tire des convoitises trompeuses, n'est-ce pas? Toujours amener cette corruption, corruption de la pensée, corruption du cœur, corruption des intentions. Alors, il arrive que la vie du chrétien soit comme un sépulcre blanchi, il faut que cette vie soit démasquée. Et pour cela, il faut qu'il y ait une action salutaire d'humiliation. L'humiliation, c'est une chose dont on ne peut pas manquer de parler. Elle est tellement nécessaire, précieuse. Les psaumes nous en parlent. Dans le psaume 119, par exemple, et au verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Comment ? Ce psalmiste, il ne connaissait pas les statuts. Il les savait par cœur, chers amis, figurez-vous, parce que ce psaume, précisément ce psaume alphabétique, était appris par cœur, à partir de l'âge de 13 ans, chez les Juifs. Enfin, alors, il les connaissait par cœur, mais il dit que j'apprenne tes statuts, que j'apprenne à les vivre, que j'apprenne à en faire quelque chose dans ma vie, que j'apprenne comment je vais obéir à tes commandements, à tes statuts. Alors pour ça, il faut l'humiliation, elle est nécessaire, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Le chrétien peut dire ça, n'est-ce pas? Il peut dire ça sur le plan spirituel. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements, que j'apprenne à vivre par le moyen de tes commandements, à vivre ta parole. Donne-moi l'intelligence. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. C'est-à-dire, j'ai foi, j'ai confiance en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Et il y a beaucoup de merveilleux passages, je n'ai pas le temps de vous les lire ce soir. Il y a Ésaïe 57,15 par exemple, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 10. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Disons que par cette humiliation, l'on constatera et que l'on est véritablement incapable soi-même, impuissant à vivre la vie nouvelle. Chers amis, nous sommes tous, sans exception, incapables, impuissants de vivre la vie nouvelle. Il faut que ce soit Christ qui la vive en nous. Lui-même, là, à pied d'œuvre, Christ en nous. l'espérance de la gloire. Christ en nous. Il faut que Christ vienne la vivre, vienne apporter l'accomplissement qui est le sien. Nous, nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas sous la loi, et nous ne pouvons pas être mis sous la loi, bien au contraire, car il n'y aurait pas d'espérance. Ça. Mais il faut que Christ soit en nous. Il faut revêtir cet homme nouveau. Je vous ai dit que l'homme nouveau, c'est Christ. Il faut le revêtir. Il faut qu'il soit là, en nous, sur nous. Il faut qu'il vive en nous. Donc, par cette humiliation, l'on constatera que l'on est impuissant à vivre la vie nouvelle. Et l'on se jettera accablé, meurtri, quand on aura constaté cette incapacité au pied du Seigneur, c'est-à-dire de celui qui est le vivant et qui fait vivre. À ses pieds, c'est lui le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et nous pourrons dire aussi, nous, j'étais mort. Et parce que le vivant est en moi, je vis au siècle des siècles. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Quand on a constaté que l'ancien moi ne vaut rien, et quand on est devenu pour soi-même un objet de fatigue, il devient alors facile d'abdiquer, abdiquer ce que nous étions, abdiquer cette fausse royauté, cette royauté factice que nous nous étions donnée, ce prestige, cette opinion que nous avions de nous-mêmes, abdiquer tout cela entre les mains du Seigneur. Et chers amis, ici, au cours de la vie chrétienne, nous faisons ce retour à l'expérience de base du salut, comme nous venons de le dire. Alors, immédiatement, il ne se passera pas peut-être une heure, peut-être pas une demi-heure, peut-être pas quelques minutes, que la paix et la joie réapparaîtront en nous, chers amis, et nous sentirons leur rayonnement nous envahir. La délivrance d'un état d'âme maladif, mauvais, provient de cette abdication. Cette abdication, c'est elle qui ouvre la porte au Seigneur. Le renoncement à soi, le dépouillement, l'abdication, c'est elle qui ouvre la porte. Vous avez lu dans cette épître de Laodicée, cette épître, oui, à Laodicée, cette lettre à Laodicée, vous avez lu ce que dit le Seigneur. Voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur est à la porte des cœurs. Mais qu'est-ce qu'il a mis à la porte? Pourquoi est-il à la porte, Seigneur? Pourquoi n'est-il pas dedans? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. La communion, l'union, la communion, j'entrerai. Alors, chers amis, si nous voulons que le Seigneur entre, comment lui ouvrir la porte? Abdiquez le moi. Abdiquez, chers amis, dépouillez. Et alors la porte s'ouvre devant le Seigneur, et le Seigneur entrera dans son temple. Il entrera dans son temple. C'est cela, chers amis, que le Seigneur a voulu nous dire, en nous disant, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Eh bien, nous allons maintenant, bien sûr, donner quelques mots de conclusion. Vous voyez, nos études, évidemment, se prolongent un petit peu. C'est difficile de l'éviter, n'est-ce pas? Eh bien, en conclusion, nous pourrons dire ceci. Il faut, dans la vie chrétienne, attention, prendre le parti de Dieu, contre nous-mêmes. Et en général, on fait le contraire. On prend son parti à soi. Moi, oh non, moi, ça va très bien. Moi, je fais ceci, cela. Moi, je fais toujours comme cela. Ah, vous savez, moi, je ne manque jamais ceci, je ne manque jamais cela. Bon. Alors, Dieu n'a plus qu'à m'honorer, n'est-ce pas? Vous voyez? Eh bien, ce n'est pas la vie de Dieu, souvent, n'est-ce pas? En tout cas, quand on tient de tels propos, cela montre qu'on ne se connaît pas vraiment. Et quel est le chrétien qui est parfait maintenant? Il y en a un parmi vous qui vienne tout de suite ici, je vous assure, ça va être pour nous une grande joie. Mais, oui, nous tendons vers la perfection. Mais il faut y tendre vraiment, n'est-ce pas? Il faut prendre le parti de Dieu contre soi-même. Le parti de la parole de Dieu contre soi. Ne pas avoir peur de cela. Il faut demander à Dieu la force d'un vrai renoncement à soi-même. Il n'y a aucune vie chrétienne qui puisse être bâtie et qui puisse être solide, ou alors elle sera bâtie sur le sable, sans ce renoncement à soi-même. Il faudra demander à Dieu de nous révéler le péché inconscient même. Il y a des péchés inconscients ou des péchés que nous n'avons pas cherché même à voir. Si nous avions cherché un peu, nous aurions peut-être trouvé, mais on n'a pas cherché. Eh bien, que Dieu nous montre ce péché, qu'il le révèle à notre cœur, afin que nous le confessions, et la lumière reviendra. Chers amis, le chrétien qui ne fait pas cela, le chrétien qui ne s'examine pas lui-même, le chrétien qui ne s'interroge pas pour savoir s'il est vraiment dans le renoncement, s'il a maintenu le renoncement, et s'il est vraiment revêtu de l'homme nouveau, eh bien, ce chrétien qui est dans la difficulté, je suppose, dont la vie n'est pas vraiment heureuse, eh bien, ce chrétien, il est un peu comme l'homme qui tâtonnerait dans l'obscurité, en aveugle, n'est-ce pas ? Il tâtonnerait dans l'obscurité, en se rongeant l'esprit, s'interrogeant, mais qu'est-ce qui va pas, il y a ceci, cela. Il y a des chrétiens qui, à longueur de mois, je pourrais dire d'années, se sont interrogés sur leur vie chrétienne, qui n'était pas satisfaisante, etc., n'est-ce pas ? Et ce n'est pas ça, ce n'est pas de se ronger l'esprit dans les ténèbres, et de tâtonner dans les ténèbres. Et ce qu'il faut, c'est se placer à la lumière de Christ. Je suis la lumière du monde. Se placer à la lumière de Christ, soleil de justice. Bien sûr, le soleil ne peut luire s'il y a des nuages. S'il y a des nuages, c'est-à-dire si les rapports de nos rapports avec Dieu ne sont pas vrais. C'est-à-dire, en somme, nous l'avons vu, si nous ne consentons pas à humilier nos cœurs. Alors, s'il y a des nuages, le soleil ne brillera pas, la lumière de Christ, la lumière du soleil de justice ne nous atteindra pas. Mais attention, les nuages ne viennent pas du soleil, viennent de la terre, les nuages. Les nuages, ils viennent de la terre, ils viennent de nous. C'est nous qui mettons des nuages, qui empêche la lumière du soleil de justice de nous atteindre. Mais dispersons ces nuages, chassons-les par l'humiliation. Faisons que nos rapports avec Dieu soient vrais, dans un véritable dépouillement. Alors là, les nuages se dissipent, le soleil vient, nous sommes à la lumière du Christ, et le sang du Christ nous purifie de tout péché. Si nous marchons à la lumière de Dieu, le sang du Seigneur nous purifie de tout péché. Voilà notre conclusion ce soir. Vous voyez que cette partie de la cure d'âme que nous pouvons faire nous-mêmes est une chose sérieuse et infiniment nécessaire. Que le Seigneur nous permette à tous de la bien conduire. Amen.